Une nuit sans témoin par H.J. Magog. Derrière M. de Franjumeau, qu'il poussait devant lui, M. Roussinet s'encadra dans la porte du salon, son salon. Il y avait, entre cet industriel rondelet chauve, actif et inélégant, la vaste pièce au splendide mobilier, le même contraste irritant et absurde qu'entre la juxtaposition de l'usine, laide, noire, grouillant de vie, et du château silencieux, vestige de féodalité enfermant la magnificence du grand siècle. Sur un authentique tapis de la savonnerie se promenait un grand garçon robuste, dont le visage rasé portait au plus 35 ans. « Vous êtes seul, Jacques ?» s'exclama l'industriel. « Que font donc ces dames ?»« J'ai ramené M. de Franjumeau. » Il avança avec précaution. Dans ce château qu'il s'était payé, il restait le monsieur de l'usine, gêné par les portraits qui n'étaient pas ceux de ses ancêtres. Plus à l'aise, le convive qui l'amenait vint tendre avec cordialité la main à Jacques Préfaille. À midi, M. de Franjumeau cessait d'être juge d'instruction pour devenir un épicurien, dont la cinquantaine vigoureuse ne dédaignait point les repas ordonnés et plantureux, ornés de crus appréciables. La table de Moussy était aussi réputée que sa cave. M. de Franjumeau n'avait pas dû opposer une bien grande résistance à l'invitation de Roussinet. L'autre convive prononça avec affabilité « Ravi de la rencontre, monsieur le juge d'instruction. Est-ce l'affaire qui vous a ramené dans le pays ?» Monsieur de Franjumeau répondit avec un haussement d'épaule qui rejetait derrière lui l'encombrement d'un fardeau. « Oh, l'affaire est enterrée. Chou blanc, j'en étais certain d'avance. » S'accompagnant d'un geste de commisération qui s'effarait de l'immensité de la pièce, monsieur Roussinet répéta « On vous a laissé tout seul là-dedans, mon pauvre Jacques. Ces dames sont à côté, elles causent. Je n'ai pas eu l'indiscrétion de les déranger. » D'une voix qui résonna sous le haut plafond, l'industriel appela « Adèle, nous sommes là !» Quelques secondes de silence. Puis, une des portières se souleva. Madame Roussinet parut, précédant une jeune femme aux yeux fiévreux et aux joues pâles, Micheline Dive, restée veuve à 20 ans. Elle en avait maintenant 25. « Allons, bavarde !» cria Monsieur Roussinet, les appelant du geste. « Nous vous attendons. Une bonne surprise, j'ai ramené Monsieur de Franjumeau. » À peine esquissé, un geste de contrariété échappa à la maîtresse de maison, tandis que Madame Dive tressaillait. Jacques fut le seul à s'en apercevoir. Madame Roussinet, un peu contrainte, s'avança vers le magistrat qui s'inclinait. « Mon mari a eu une excellente idée, » prononça-t-elle. « Nous sommes presque seuls maintenant. Seulement Monsieur Préfaille et Micheline Dive. » Le mari compléta. « Les autres nous ont lâchés. La mort de ce pauvre Marcignac avait jeté un froid. » Monsieur de Franjumeau approuva d'un signe, puis il dit, négligemment, « Il avait dîné chez vous, le soir. » « Précisément, c'est de retour qu'il a été assassiné. »« Parlons d'autre chose, voulez-vous ?» pria Madame Roussinet. Pendant le déjeuner, la conversation avait un peu langui. Parler d'autre chose n'est pas toujours aisé. Madame Roussinet était silencieuse. Micheline Dive, nerveuse et pensive. Les hommes faisaient seuls les frais de la conversation, mais avec un effort visible. Après deux phrases qui tombèrent comme des balles manquées par la raquette, M. Roussinet soupira. « Nous allons perdre M. de Franjumeau. Son instruction est finie. » Aussitôt, Micheline Dive demanda, sans relever la tête, « A-t-on trouvé ?» Le juge d'instruction dégustait un vin couleur rubis. Il éloigna à peine son verre pour répondre. « Rien, madame. Alors ? C'est bien simple, l'affaire sera classée. » La jeune femme s'agita sur sa chaise. Sa voix trembla un peu. « On ne saura jamais. Jamais. » Et M. de Franjumeau acheva de vider dévotieusement son verre qu'il reposa. « Je l'avais prévu dès les premières constatations, » reprit-il. « En vérité, nous n'avions aucun indice et le mystère était complet. Un crime commis en pleine nuit, la victime trouvée morte dans son auto, arrêtée sur une route déserte, à plusieurs kilomètres de toute habitation. Pas un témoin. Marcignac conduisait lui-même et voyageait seul. Tout est ténèbre. Pourquoi l'auto s'est-elle arrêtée ? L'expertise a démontré qu'il n'y avait pas eu de panne. Par qui Marcignac a-t-il été frappé ? Pourquoi ? On a retrouvé dans ses poches son portefeuille et ses papiers. Aucune trace de lutte. Le coup a été porté par devant. Conclusion, nous ignorons le mobile, les circonstances du crime et la personnalité de l'assassin. Si ce dernier existe, car n'était la disparition de l'arme, une lame d'épée ou de fleuret, je conclurai volontiers un suicide, encore qu'il puisse à peine mieux s'expliquer que le crime. Si donc l'assassin existe, Il s'est éclipsé comme il était venu. Surgé de l'ombre, il est rentré dans l'ombre et nul, ni avant ni après, ne l'a aperçu. Nous avons cherché pendant 3 semaines sans rien découvrir. Il ne nous reste, je le répète, qu'à clore l'enquête et classer l'affaire. Classez-la. Et ne parlons plus de cette épouvantable affaire. J'en rêve toutes les nuits, murmura Madame Roussinet en frissonnant. Classez, c'est vite dit, protesta Micheline. Le juge pinça les lèvres. Sans doute alla-t-il prier la jeune femme d'expliquer sa phrase, et celle-ci se redressait déjà, prête à répondre. Mais Jacques Préfaille prévint les deux antagonistes. « Je partage l'opinion de Madame Dive, » dit-il froidement. « À mon humble avis, mon cher juge, vous vous pressez un peu trop d'abandonner la partie. »« Comment cela ?» s'étonna le magistrat. « Il y a eu crime, puisqu'il existe une victime. L'existence de l'assassin est tout aussi indéniable. » Moqueur, parce qu'il était au fond un peu vexé, Monsieur de Franjumeau riposta. « Trouvez-le. Je m'en chargerai volontiers, pour peu que cela ne vous désoblige pas. » Madame Roussinet lui coupa la parole avec une irritation manifeste et qui contrastait avec son ordinaire amabilité. « Assez, Préfaille. Si vous ne voulez pas m'être désagréable, vous renoncerez à cette gageure. »« Permet ?» se récria le mari. « Si vraiment Jacques peut découvrir quelque chose. »« Quoi ? Monsieur de Franjumeau, dont c'est la profession, a échoué. Préfaille ne réussira qu'à nous impressionner. Micheline et moi, tu sais combien notre amie est nerveuse. » Avec une émotion qu'elle tâchait de dissimuler, elle regarda la jeune veuve, un peu pâle, mais maîtresse d'elle-même. « Cher ami, ne me rendez pas ridicule, » répliqua celle-ci. « Je puis parfaitement entendre M. Préfaille. J'avouerai même qu'il a éveillé ma curiosité et que je souhaite ardemment connaître le mot de l'énigme. En nous proposant de nous découvrir le nom de l'assassin de notre ami Marcignac, il va au-devant de mon secret désir. » M. de Franjumeau s'exclama. « Vous voulez nous mystifier ?» Mais les deux femmes contemplaient presque avec terreur Jacques, qui frappait en passant le dossier d'un fauteuil isolé au milieu du salon. « Il est 2 heures. »« À 5 heures, » répéta-t-il. « L'assassin viendra s'asseoir là, devant nous, ses juges. »« Suivez-moi, » avait dit simplement Préfaille. Et l'on était sorti du parc, dont on longea le vieux mur comme pour une promenade. Ce n'en était point une. Tous ne songeaient qu'à écouter les explications de leur guide. L'hôtel de Marcignac quitta Moussy vers 11 heures du soir, rappela Jacques. « Je prends les points acquis par l'enquête, sans la recommencer. Nous savons que Marcignac était seul et qu'au lieu de traverser le village, il a tourné à droite pour rejoindre la route de Claret, par ce vieux chemin longeant le mur de votre propriété. « Je vous demande pardon, » interrompit M. de Franjumeau, « mais si vous avez l'intention de refaire le trajet de l'automobile jusqu'au lieu du crime, j'ai en effet cette intention. » En ce cas, une voiture n'eût pas été de reste, c'est à 8 bons kilomètres. L'amateur détective sourit ironiquement. Pas si loin. Vous avez supposé que Marcignac avait été tué là où on l'a trouvé. Ou dans les environs. Pourquoi dans les environs? Vous n'avez pas pu déterminer l'endroit exact. Je prétends moi qu'il a été apporté, et d'assez loin. Prouvé. La blessure ne saigna plus, et ni dans l'auto, ni sur la route, ni dans le rayon assez étendu que vous avez fait explorer, il n'y avait trace de sang. Le juge d'instruction parut frappé. « C'est juste, » reconnut-il, « mais on pouvait admettre qu'il y avait eu hémorragie interne. » Le rapport des médecins a-t-il fixé ce point? Non. Il ne s'en est pas préoccupé. Peut-être aurais-je dû. Mais passons. Avez-vous trouvé quelque chose? Ceci. Jacques s'arrêta et montra sur le bord du chemin 2 éraflures entamant l'herbe. Ici, l'auto a quitté la route. Voyez ces mottes de terre arrachées et écrasées. Suivez les traces des roues qui ont enfoncé dans le sol le gazon foulé. Ces traces nous conduisent derrière ce bouquet d'arbres, tout près de cette brèche par laquelle nous pouvons rentrer dans le parc. Madame Roussinet poussa un cri d'horreur. « Prétendez-vous ? » Mais tous du geste repoussèrent son interruption, et Jacques, impassible, continua. « L'auto a stationné là. 4 ornières, assez profondes, en témoignent. Elle a ensuite reparti, contournant le bouquet d'arbres et redescendant dans le chemin. Nous pourrions la suivre, c'est inutile. Elle va vers la route de Claret, et vers l'endroit où on l'a trouvé avec le cadavre qu'elle emportait lorsqu'elle est repartie. » Un silence glacé. Légèrement, le jeune homme franchit la brèche et se retourna pour tendre la main aux dames. « Venez !» Elles obéirent, subjuguées, et les hommes suivirent. Tous étaient d'ailleurs suspendus aux lèvres de Jacques Préfaille. « En vérité, » murmura Madame Roussinet, visiblement mal à l'aise, « ce Préfaille a juré de me faire mourir de peur. Que va-t-il nous montrer dans notre parc ? servant de guide, le déchiffreur de l'énigme, marchait le premier. « Nous n'avançons pas au hasard, » reprit-il. « Vous pouvez vous rendre compte qu'un homme, sinon deux, s'est frayé passage à travers ces buissons. Les branches cassées pendent encore, le lit de feuilles est piétiné. Et comme nul, sauf moi, n'est venu là depuis, il serait possible encore de distinguer les empreintes des pas. » Tout amour-propre professionnel mis à part, M. de Franjumeau suivait maintenant avec un prodigieux intérêt cette démonstration. Il approuva de la tête et demanda, en homme pressé d'atteindre le but, « Où cela nous mène-t-il ? Avançons, » répondit Jacques. En silence, ils pressèrent le pas jusqu'à ce qu'ils eussent rejoint une des allées montant vers le château. C'était sur la partie opposée à la façade que le jour de l'allée ouvrait ses perspectives. Dans son lointain se dressait Moussy, ceinturé d'une douve, que masquait un rempart de plus de 2 mètres de haut. Contre sa muraille extérieure, de pacifiques espaliers s'élevaient et des plates-bandes fleuries enlongeaient le pied. Le fond de la douve était encore garni d'une eau vaseuse dont le miroir terni reflétait les arches reliant de place en place le rempart au mur du château. Tout en suivant le groupe, Madame Roussinet, qui avait repris le bras de Micheline, poussait des exclamations plaintives entrecoupées de soupirs. « C'est absurde, c'est abominable, faire de mon parc le théâtre d'un crime. Jamais je ne pardonnerai ce scandale à Préfailles. » Soudain, elle poussa un cri d'effroi. « Mais, Dieu me pardonne, il nous conduit jusqu'au château. Ah ça, va-t-il prétendre qu'on a assassiné ce pauvre Marcignac sous nos fenêtres ?»« Sous mes fenêtres, » rectifia paisiblement Micheline. « Nous voici précisément en face du balcon de ma chambre. » Jacques Préfailles ne paraissait pas entendre ces remarques. Il entraînait le juge vers les plates-bandes. « Heureusement, dit-il, le jardinier s'occupe des parterres et néglige ce coin. Cette chance va nous permettre quelques constatations intéressantes. Madame Roussinet nous excusera de piétiner un peu ces massifs. Nous ne sommes pas les premiers. » Suivi de M. de Franjumeau, puis des autres, il enjamba la bordure de buis et traversa la plate-bande. À 2 pas de l'espalier, il se pencha, aussitôt imité par le juge. « Au pied de ce mur, expliqua-t-il, on avait appuyé une échelle que le poids du grimpeur a enfoncée dans le terreau. Voici les trous démontants. Quant à l'échelle, vous la retrouverez là-bas, dans cette resserre que le jardinier a le grand tort de ne point fermer à clé. Car des cambrioleurs y trouveraient toutes les commodités pour escalader le rempart. Et n'oublions pas que les arches pourraient servir de pont à des gaillards craignant peu le vertige. Du château, nous verrons mieux cela. Mais autre chose nous importe d'abord. Regardez à droite, monsieur de Franjumeau. » Le juge d'instruction obéit et poussa une exclamation. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il. Il distinguait nettement, imprimé en creux dans la terre, la forme d'un corps humain qui s'y était enfoncé violemment. Le corps avait disparu, mais l'empreinte était restée, partiellement effacée par des piétinements. Jacques expliquait toujours. « Quelqu'un était monté sur le rempart et quelqu'un est tombé. Ne seriez-vous pas curieux d'examiner le fait du rempart, mon cher juge ? Soit, » acquiesça M. de Franjumeau, « mais je ne vois pas encore en quoi ces marques singulières peuvent se rattacher au crime qui nous occupe. » Sans attendre la réponse, Jacques s'était dirigé vers la resserre. Il en revint, portant une échelle, qu'il enfonça dans le creux des empreintes. Les montants s'y adaptèrent exactement. « C'est la même, » assura-t-il. « Je monte le premier. Vous voudrez bien me suivre, monsieur de Franjumeau. » Les deux hommes grimpèrent, contemplés par 3 têtes levées. Celle de Roussinet, dont le visage ne reflétait que la curiosité, celle de Madame Roussinet et de Micheline Dive, pâle, tendue, crispée par une angoisse qui allait croissant à mesure que se précisaient les découvertes et l'argumentation de l'Oedipe. D'en bas, elle ne pouvait plus voir, mais elle prêtait l'oreille et suivait avec la même anxiété les expressions successives de la physionomie de M. de Franjumeau. Marchant sur la crête du mur, large d'une 60 centimètres, celui-ci accompagnait docilement Jacques qui se dirigeait vers une des arches. Chacune formait une sorte de pont en dos d'âne qui partait du rempart et traversait le vide au-dessus de la douve pour s'accrocher au mur du château un peu au-dessous de la corniche du premier étage. Comme l'avait insinué Préfailles, c'était là un chemin tout indiqué pour un hardi cambrioleur. Car, si le dos d'âne de l'arche n'offrait qu'un passage fort étroit et périlleux, il était néanmoins possible de le franchir pour peu qu'on eût le pied sûr. Pareillement, la seille de la corniche reliant entre eux les balcons devait permettre de les atteindre. L'arche devant laquelle Jacques s'arrêta atteignait cette corniche à 3 mètres à peine d'une des fenêtres de la chambre de Micheline Dive. La première pierre de cette arche était éclaboussée d'une tache brune dont la partie principale s'étalait sur le rempart. « Regardez !» commanda Préfailles. « C'est du sang !» coagulé, desséché, murmura M. de Frangumeau avec stupeur. Un homme a été tué là, celui qui est tombé au pied de l'échelle. Aiguë, frémissante, la voix de Micheline explosa. Marcignac pouvait venir, il a dû venir sur ce rempart, il y est certainement venu ce soir-là, cria-t-elle farouchement. Elle était d'une pâleur de cire et ses yeux fiévreux avaient encore grandi. Il mangeait tout le visage et après eux, la vie de Micheline fuyait en éclats. Un secret trop longtemps contenu jaillissait, et c'était en elle un soulagement immédiat. Madame Roussinet s'élança, la serrant dans ses bras, en gémissant d'une voix suppliante. « Micheline, ma chérie, quelle folie !» Le juge d'instruction et M. Roussinet considéraient la jeune femme avec stupeur. Jacques n'avait pas tressailli. Un sourire mélancolique errait sur ses lèvres. « Que voulez-vous dire, madame? Comment pouvez-vous affirmer cela ?» demanda enfin M. de Frangumeau. Fiévreuse et volubile, retenant à peine des larmes prêtes à couler, Madame Nive répéta d'une voix basse et haletante. « Marcignac devait venir par ce chemin. Il devait venir me rejoindre, je l'attendais. » Son corps s'affaissa comme si le ressort qui le tendait se brisait. Elle soupira. « Il n'est pas venu, il est mort. » Puis elle ne dit plus rien. Tout bas, l'industriel s'exclamait. Le juge d'instruction demeurait interdit. Madame Roussinet gémit. « Pourquoi avoir révélé cela, ma pauvre Micheline? Pourquoi vous compromettre, vous perdre ?» Tout à coup, elle se tourna vers Jacques et lui jeta furieusement. « C'est votre faute. Voilà le résultat de votre intervention stupide. Je vous félicite. » Sans courber les épaules, Préfaille répondit. « Je savais, Madame Dive, décidée à cette confession, qu'elle méditait plus complète encore. »«
C'est exact, » murmura Micheline.
« Sans cette certitude, je n'aurais point parlé.
Mais, par hasard, un peu aussi, je l'avoue, parce que, ayant lu dans la pensée de Madame Dive, ce que je savais me mettait à même de le faire, je la surveillais.
J'ai surpris votre entretien de tantôt.
« Oh, Préfaille !»
se récria Madame Roussinet, indignée. Jacques s'excusa d'un geste mélancolique.
« Encore une fois, je ne surprenais pas un secret, puisqu'un hasard antérieur m'en avait déjà fait le confident. J'épiais une décision, et il me parut que mon devoir était d'en avancer les effets néfastes. Cette enquête que j'ai proposée, cette révélation vers laquelle je vous achemine, c'eût été l'œuvre et le butin de la justice, demain. Ne vaut-il pas mieux que tout ceci se passe entre nous, devant vous, les vieux amis de Madame Dive, et que la totalité du secret soit confiée à M. de Frangumeau, qui saura n'en retenir que l'indispensable ?» Soulagée à mesure que le jeune homme parlait, Madame Roussinet lut sur le visage du juge d'instruction une approbation muette, un acquiescement qui valait une promesse. Elle saisit les mains de Préfaille. « Jacques, pardonnez-moi, vous êtes un brave garçon. » Roussinet, ému, hochait la tête. Micheline leva les yeux brouillés de larmes. De nouveau, elle se roidit. « Merci, Jacques. Mais je n'accepte pas ce que suggère votre amitié. Je veux que la vérité éclate, tout entière. Je veux le scandale. Dût-il m'éclabousser parce que je veux le châtiment de l'assassin. Je veux venger celui... » Elle éclata en sanglots, incapable d'achever. Tous s'empressèrent. D'un geste là, elle repoussa les apitoiements, les consolations, les conseils. « Continuez, Jacques, » pria-t-elle. « Dites ce que vous avez découvert. » Il n'objecta rien. « Si cela ne vous contrarie pas, madame, nous passerons par votre chambre, » proposa-t-il. « C'est de votre balcon que je pourrai exposer le drame. » En traversant la galerie du premier étage, Jacques s'arrêta devant une panoplie. « Est-ce vous, Roussinet, qui avez fait enlever les deux épées ?» demanda-t-il. L'industriel, arraché à ses réflexions, leva la tête et regarda d'un air ébahi la place vide que montrait Préfaille. « Par exemple, » s'exclama-t-il, « je voudrais bien savoir qui s'est permis. » Mais derrière lui, Micheline, fiévreuse, M. de Frangumeau et Mme Roussinet s'impatientaient. « Patience, » dit Préfaille, « je vous ai fixé une heure. » Il passa sur le balcon. Impressionnés, tous le suivirent. En dessous, descendus dans le fossé, deux domestiques, dans l'eau jusqu'à mi-jambe, fouillaient la vase. « Que font-ils ? » s'exclama M. Roussinet. « Ne vous inquiétez pas, » répondit Jacques. « C'est moi qui me suis permis de leur donner un ordre. » Il étendait la main dans la direction des pierres ensanglantées de l'arche et du rempart. « À présent, je vais vous reconstituer la scène du meurtre, telle qu'elle ressort des constatations que nous venons de faire, et de quelques autres que je vous soumettrai. » Micheline frissonnait. Madame Roussinet murmura. « Préfaille, tout ceci est cruel. »« Mais nécessaire, » répondit froidement le jeune homme. «
Ce n'est point par plaisir que j'inflige à Madame Dive cette torture.
Je le sais, Jacques, et je vous remercie d'avoir ce courage, dit Micheline.
Allez, je puis tout entendre.
Il commença, d'une voix posée, dédaigneuse des effets faciles que comportait le sujet.
Puisque Madame Dive a pris soin de vous en avertir elle-même, nous savons pourquoi Marcignac, après avoir ostensiblement quitté Moussy en automobile, était revenu à pied par le chemin que nous avons suivi tantôt. Il atteignit le rempart à un endroit qu'il avait dû repérer d'avance et plaça l'échelle qu'il s'en fait prendre dans la resserre. Il monta sur le rempart. Mais l'assassin ne put s'empêcher d'interrompre le juge d'instruction.
« Attendez, l'assassin n'est point venu par où vous supposez.
Il ne suivait pas Marcignac. Autrement, il l'eût tué dans le parc, en un endroit moins en vue que ce mur.
Donc Marcignac atteignit le sommet du rempart et l'atteignit seul. Son premier regard dut être pour ce balcon sur lequel nous sommes et dont la porte-fenêtre s'éclairait d'une faible lueur. Il se tourna vers Micheline, l'interrogeant du regard.
« C'est exact, » balbutia-t-elle.
« Vous n'étiez pas derrière ?
Vous n'avez pu voir ?»
Elle secoua la tête, et une immense détresse apparut dans ses yeux.
« Non, »
dit-elle, « j'attendais en tremblant l'heure à laquelle il devait venir. »
« Mais pas une fois. Je ne suis allé à la fenêtre, et quand cette heure fut passée, je n'osais pas la fermer. » Elle demeura ouverte jusqu'au jour.
Elle ajouta dans un souffle.
C'était la première fois.
Jamais, jamais il n'était venu.
Oui, murmura Jacques comme se parlant à lui-même. C'est bien ainsi que cela dut se passer.
Il éleva le ton pour reprendre. Marcignac vit la fenêtre et l'ombre de l'arche. La nuit était obscure et il pouvait tout juste se diriger en tâtonnant. Il ne franchit probablement pas l'arche debout, mais en se traînant sur les mains et les genoux. Et ce ne fut que lorsqu'il eut atteint la corniche qu'il se redressa.
« Pardon ? Mais la tache de sang est de l'autre côté de l'arche, sur le rempart ?» fit observer M. de Franjumeau.
« Il se redressa ?» poursuivit Jacques imperturbable. « Il n'avait plus qu'à se glisser le long de la corniche jusqu'au balcon. Mais une ombre lui barra le passage. Une ombre qui devait être collée le long de la muraille. Madame Dive pourrait peut-être nous dire le nom de cette ombre ?»
Micheline sursauta.
« Comment le pourrais-je »
s'exclama-t-elle effarée.
« Écoutez, Marcignac sentit tout à coup, contre sa main instinctivement avancée, la poignée d'une épée. En même temps, une pointe piqua son autre main. Il recula. Mais sa main s'était refermée et son bras avait machinalement fait le geste de défense. Il s'était tendu, présenta la pointe de l'épée qui venait de lui être remise, et le combat s'engagea.
« Un duel ?»
s'exclamèrent à la fois le juge et l'industriel.
« Un duel !» continua Jacques, sans s'émouvoir.
À la vérité, ce dut être un assassinat quelque peu maquillé. Un sentiment de pudeur, que je vous laisse le soin d'apprécier ou de railler, dut pousser l'assassin à donner ce semblant de chance à son adversaire. Il répugna sans doute à égorger un homme désarmé. Il voulut faire la chose proprement, aussi proprement que le lui permettaient les circonstances. Ceci vous fournit un premier indice, qui vous servira tout à l'heure à l'identifier.
Mais quelle preuve ?
« Je vous en donnerai une, » promit Jacques, calmant d'un geste l'impatience de M. de Franjumeau.
En réalité, je dis, ce fut quand même un assassinat, car Marcignac, terrifié par l'imprévu de la rencontre, troublé aussi par la situation périlleuse, il avait le fossé derrière lui, et dut repasser l'arche à bourrée à reculons, sous la menace de l'épée qui cherchait sa poitrine. Marcignac fut, dès le premier instant, à la merci de son assaillant, et la preuve, c'est qu'il fut frappé et tomba au moment où il atteignait le rempart, c'est-à-dire lorsqu'il ne risqua plus de rouler dans le fossé, d'où l'assassin n'aurait pu retirer son corps. Or, de toute évidence, le meurtrier tenait à l'emporter.
« Mais pourquoi ?»
s'exclama encore M. de Franjumeau.
« Les faits parlent. C'est à 8 kilomètres qu'on a retrouvé le cadavre, et en vérité, ce fut heureux, non seulement pour M. et Mme Roussinet, mais aussi pour Mme Dive, qui, sans cette fantaisie de l'assassin, eût pu être compromise par ce drame dénoué sous son balcon. Il convient d'ailleurs d'admirer ces coïncidences favorables. Le meurtrier aurait pu attendre Marcignac et le frapper à la sortie du parc près de l'automobile, après le rendez-vous. Il se serait ainsi épargné bien des peines. Or, c'est avant qu'il supprime le soupirant et son coup fait, il prend du cadavre le singulier souci que vous savez. Bref, il se conduit en ami de Madame Dive.
En ami ?
S'exclama douloureusement Micheline.
« En protecteur !»
affirma Madame Roussinet. « Voilà pourquoi j'insinuais que Madame Dive devait pouvoir nous dire le nom de ce chevalier. reprit Jacques en fixant Micheline.
Elle parut se débattre, repousser une hypothèse qui l'épouvantait. « Je vous jure que je l'ignore, je le jure !»
déclara-t-elle d'une voix frémissante. Monsieur de Frangumeau ruminait.
« L'hypothèse est intéressante et le récit assez bien imaginé, »
dit-il en se caressant le menton.
« Reste à prouver cette histoire des deux épées. » Tantôt vous avez rappelé que l'arme du crime dut être une lame d'épée ou de fleuret. L'assassin en tenait une. Ceci ne vous autorise pas à affirmer que la victime était pareillement armée.
Jacques se pencha sur la balustrade, dévoile le hélet du fossé.
La réponse vient à point, dit-il. Regardez.
Et le juge d'instruction, se penchant à son tour, aperçut les domestiques qui présentaient deux épées extraites de la vase.
Mes fleurets!
Balbutia Roussinet, médusé.
Croyez-vous maintenant au simulacre de duel?
Reprit Jacques.
L'une d'elles doit être teinte de sang.
C'est à cause de cela que l'assassin les a jetées dans le fossé, où il s'imaginait, le naïf, que nul n'irait les repêcher,
au lieu de les replacer à l'endroit où il les avait prises.
Où il les avait prises, répéta Roussinet, étranglé par l'émotion.
C'est-à-dire sous votre panoplie.
Mais alors?
Naturellement, il était au château. Il y couchait. C'est d'une de ses fenêtres qu'il est parti pour aller à la rencontre de sa victime, après s'être prémuni des armes. Il y a 3 semaines, combien étions-nous au château, mon cher Roussinet ?
Une quinzaine, bégaya l'industriel, tandis que sa femme fronçait les sourcils.
Il faudrait y ajouter les domestiques, mais je les écarte. Le crime a été commis par un de vos invités.
Pourquoi un invité ? Questionna presque agressivement Micheline, qui, d'abord écrasée et tremblante, se ranimait peu à peu.
« J'opine pour un invité. Cela découle de la conduite de l'assassin. »
Micheline, en proie à un émoi inexprimable, regarda successivement les châtelains et le juge. Tous 3 approuvaient.
« Cette fois, vous vous trompez,
perspicace Préfaille, s'écria-t-elle d'une voix mordante.
« La trouvaille des épées, dont une seule a servi, peut vous donner le change. Mais moi, qui sais ?
Je ne me laisse point égarer.
Il y a eu assassinat. Assassinat vulgaire. » Vulgaire comme l'assassin, j'en ai la preuve, une preuve plus décisive, plus irréfutable que les vôtres.
Donnez-la, riposta froidement Jacques.
L'assassin a volé, il a volé, Marcignac. On a retrouvé le portefeuille, les papiers et une certaine somme, objecta le juge d'instruction. On a retrouvé une somme insignifiante, mais on n'a pas retrouvé les 500 000 francs que Marcignac avait sur lui.
Du coup, les visages s'émurent. Tous, à l'exception de Préfaille, s'exclamèrent.
Êtes-vous sûr? Comment savez-vous cela? Pourquoi n'aviez-vous rien dit?
Parce que, répondit Micheline en fondant larmes,
c'est moi qui les avais remis. Cette somme était toute ma fortune, que j'avais réalisée sur ses conseils. Avouez cela, c'était le soumettre et me soumettre au jugement du monde.
Dont vous craignez la sévérité? Questionna doucement Jacques.
Je ne voulais pas l'entendre juger, balbutia la jeune femme. J'avais peur. Oui, j'avais peur.
Écoutez tout maintenant. Je dois tout dire, car les suppositions que vous feriez seraient peut-être pires que la vérité.
Marcignac me faisait la cour depuis longtemps.
Oh, très discrètement. Personne ne s'en était aperçu.
Si, quelqu'un avait dû s'en apercevoir, interrompit Jacques en fouillant le regard de Micheline.
Elle réfléchit et soupira.
Oui, peut-être. Hélas.
Il n'est pas utile que je vous détaille les assiduités de Marcignac. Ni que je vous dise par quel patient tactique il triompha de mes résistances.
J'acceptai enfin de l'épouser.
Il vous l'a proposé ? S'exclama M. de Frangumeau.
Oui.
Oh, il s'attendait à ce que le monde jugeât sévèrement notre folie.
Il avait, je crois, le double de mon âge, et c'est pourquoi il me persuada de tenir notre projet secret. Je devais réaliser mon avoir. Il en faisait autant de son côté, et nous serions partis nous marier en Angleterre. Jamais nous ne serions revenus.
« Quelle folie !» murmura le juge, approuvé par les Roussinets.
« Une folie en effet !» gémit Micheline, en courbant la tête. « Je me juge maintenant aussi sévèrement que vous me jugez. Mais la catastrophe a cruellement châtié mon égarement. Donc, j'avais remis le jour même du crime à Marcignac mes 500 000 francs, qu'il enferma devant moi dans son portefeuille. Et ce fut alors qu'il me demanda et obtint ce rendez-vous pour le soir. Ce rendez-vous que je lui avais toujours refusé.
Dans ses yeux se refléta une angoisse. Il eut un geste suppliant, un geste affolé.
Ne me demandez pas pourquoi. Comment j'ai pu lui accorder cela? C'est la fatalité, uniquement la fatalité.
Monsieur de Frangumeau voulut parler, elle l'arrêta.
« Il faut que je vous dise une chose beaucoup plus importante. Pendant cet entretien, j'ai vu trembler l'une des portières du petit salon dans lequel nous nous tenions.
Oui, la portière a tremblé quand j'ai accordé le rendez-vous, et j'ai compris. Il y a des moments où on voit, où on sent certaines choses. J'ai senti que quelqu'un nous écoutait. J'ai poussé un petit cri en serrant convulsivement la main de Marcignac. Il a compris. Il suivait la direction de mon regard. Il s'est retourné et a couru soulever la portière. Je l'ai entendu grommeler un juron. Puis il est revenu et il m'a affirmé qu'il n'avait aperçu personne. Mais ses yeux m'inquiétaient. Ils étaient soucieux et sombres et je ne fus point convaincu. Maintenant, je suis certaine que nous avait épié et entendu. Un misérable, sans doute un domestique.
Les 500 000 francs l'ont tenté. Le rendez-vous lui fournissait l'occasion. Tout le reste s'explique et les précautions qu'il a prises assurèrent sa sécurité, point la mienne.
Elle acheva d'un air là.
Et voilà, Jacques.
Croyez-vous toujours être sur la piste ?
Préfaille regardait le juge d'instruction. Celui-ci s'exclama d'un ton de commisération.
« Ma pauvre dame, vous l'avez échappé belle. »«
Comment ?»
s'effara Micheline.
« Vous êtes ruinée, ma pauvre amie, »
soupira Madame Roussinet.
La jeune femme fit un geste d'indifférence.
« Oh, si ce n'était que cela !»«
Vous aimiez Marcignac ?» demanda Jacques avec pitié. De nouveau, le geste de Micheline exprima la lassitude, le désarroi, presque le doute.
« Je ne sais pas, je ne sais plus. En sa présence, j'étais folle, je n'étais plus moi. »
Et tout bas, pour elle, rien que pour elle, elle murmura.
« Comment ai-je pu ?»
Paternelle, la main de M. de Franjumeau se posa sur son bras.
« Ne regrettez rien, ne le pleurez plus. Oubliez-le, lui et cette aventure. C'était un misérable. »
Micheline se redressa en proie à une détresse immense. Elle s'écria désespérément.
« Ne salissez pas sa mémoire !»
Et ses bras battaient l'air comme ceux d'une personne qui se noie et cherche à s'accrocher. « Il serait odieux de vous laisser cette illusion, » poursuivit M. de Franjumeau énergiquement. « Rien n'a existé entre vous et cet homme, rien que des projets, rien qu'un rêve dont il vous aurait éveillé. Il est indigne de vos larmes, comme il l'était de votre amour. Et cet amour, il vous l'avait escroqué en même temps que votre fortune. » Il repoussa du geste la protestation de Micheline.
« Tant pis pour le secret professionnel.
Je vous révélerai ce que m'a appris l'instruction. Ce Marcignac était décidément une canaille. Il était marié. »
Micheline poussa une exclamation qui traduisait à la fois sa stupéfaction, sa honte, sa colère.
« Marié ?»
Oui. Sa veuve, qui vivait séparée de lui quelque part en province, s'est révélée par un télégramme qu'on m'a remis. Elle avait appris par les journaux la fin tragique de son époux et s'informait de l'héritage. Or, celui-ci consiste en quelques affaires louches, une façade. Je conçois le souci de l'Aigrefin de vous faire réaliser votre actif, pour lui remettre, sous couleur de mariage entouré de mystères. Et je conçois également cette demande de rendez-vous. Il fallait vous lier, vous compromettre, pour étouffer votre voix, si, par la suite, comme cela était probable, vous aviez démasqué le personnage. Un joli monsieur.
Oh,
gémit Micheline, suffoquée de honte.
Pourquoi m'avoir révélé cette infamie? Je croyais pleurer sur lui. Désormais, ce sera sur moi.
N'exagérez rien. Vous avez failli être une victime. Vous ne l'avez pas été. Votre secret demeure enfermé dans ce cercle. Il consulta du regard M. Madame Roussinet et le juge d'instruction qui acquiescèrent d'un signe de tête.
Il n'en sortira pas.
Vous pourrez oublier, comme vous, quant à l'assassin.
Il a délivré la terre d'une fière canaille,
opina M. de Franjumeau.
Tenez-vous toujours à le démasquer, mon cher Préfaille ?
Micheline écarta ses mains de son visage pour crier.
Ne chantez pas les louanges de l'assassin. Il ne valait pas mieux que sa victime. Vous oubliez qu'il a emporté les 500 000 francs.
Joignant les mains, elle gémit.
Oh mon Dieu, si je pouvais douter encore. Marcignac ne fut peut-être pas l'homme que vous dites, et il est mort.
Instinctivement, tous étaient tournés vers Jacques. L'argument de la jeune femme portait et les décevait. Il leur déplaisait à tous que le meurtrier inconnu, qui peu à peu avait pris figure de redresseur de tort, ne fût qu'un vulgaire larron.
« En effet, ces 500 000 francs, il faudra les retrouver, »
dit le juge perplexe. « Nous ne pouvons absoudre l'assassin, s'il est en même temps un voleur. »
Préfaille sourit énigmatiquement.
« Descendons, »
proposa-t-il. « Je voudrais téléphoner. »
Les visages redevinrent attentifs. Roussinet entraîna vivement ses hôtes au rez-de-chaussée. Jacques décrocha et réclama.
Paris. » Puis s'adressant à Micheline Dive, « Le numéro de téléphone de votre banquier, le connaissez-vous, madame ?»
La jeune femme balbutia un nom. Déjà, Franc-Jumeau feuilletait fébrilement l'annuaire. Jacques put demander le numéro.
« Il faut tirer au clair cette histoire des 500 000 francs, dit-il. Qui sait si notre amie n'a pas rêvé qu'elle déplaçait cet argent ?»
Micheline s'exclamait. La sonnerie l'interrompit. Par hasard, la communication s'obtenait à propos. Jacques tendit à la jeune femme un écouteur.
« Allô ? » prononça-t-il. « Ici, madame Micheline Dive, qui désire connaître le montant de son compte. »
Micheline lui jeta un regard stupéfait, mais presque aussitôt la réponse entendue changea sa stupéfaction en un véritable effarement.
« On a reversé 1 500 000 francs,
bégaya-t-elle.
« Quelqu'un, un inconnu, qui s'est présenté de ma part ?»«
Voilà le meurtrier blanchi. S'il l'a pris, ce fut pour restituer, » constata Jacques,
tandis qu'autour de lui les visages se rassérénaient.
Personne d'entre vous ne doute plus des motifs qui l'ont fait agir. S'il a tué par une nuit noire et s'il s'est dérobé aux conséquences de son geste, ce fut pour achever son œuvre. Il ne voulait pas que Madame Dive fût compromise par son intervention.
Dites son dévouement,
coupa Madame Roussinet. Et cette fois Micheline ne protesta point.
Il a agi en ami chevaleresque,
murmura-t-elle.
Un amoureux,
observa finement M. Roussinet.
Monsieur de Franc-Jumeau restait de marbre. Il consulta la pendule.
« Vous avez presque gagné votre pari, »
déclara-t-il.
« Le plus pénible reste à faire, »
soupira mélancoliquement Jacques.
« Il me faut livrer l'assassin à la justice.
Voudrez-vous séparer sa cause de celle de Madame Dive et ne point lui demander compte des détails qu'il passera sous silence ?» Micheline sortit de sa torpeur.
« Pourquoi le trahissez-vous maintenant, vous qui aviez respecté son secret ?» demanda-t-elle. « Car ce n'est pas d'aujourd'hui que vous l'avez découvert,
non ?»«
Et j'aurais continué à me taire si vous n'aviez pas voulu parler. » Elle gémit, angoissée. « Ainsi, c'est moi. » »« Vous courriez au-devant du scandale que le meurtrier s'était efforcé d'éviter. Vous alliez ruiner son œuvre. Je l'ai sacrifié. Je vais le sacrifier, certain d'aller, en agissant ainsi, au-devant de son désir et de sa décision. » Vous vous contenterez de cet holocauste, n'est-ce pas, mon cher juge? L'heure va sonner. Il est temps d'appeler le meurtrier.
Spontanément, tous se précipitèrent entre lui et la porte pour lui barrer le passage.
Vous ne ferez pas cela, Jacques!
Mais une stupeur les cloua sur place. C'était vers le fauteuil que Préfaille marchait, vers le fauteuil dans lequel il s'était engagé à faire asseoir l'assassin.
Jacques!
Souriant, il se retourna vers le cri.
Ne voulez-vous pas le juger?
Dit-il, en s'apprêtant à s'asseoir dans le fauteuil.
Il ne le put.
Micheline s'était jetée sur lui et le repoussait. Elle tomba haletante à la place qu'il voulait occuper.
« Je ne veux plus savoir »
cria-t-elle. La main du juge d'instruction se posa sur l'épaule de Préfaille.
« Madame a mille fois raison, »
dit-il gravement.
« Respectons l'incognito de l'assassin, mon cher Préfaille.
C'est la meilleure marque d'estime que nous puissions lui donner.
Le magistrat doit ignorer son nom, et l'homme du monde préfère oublier la très dramatique et très palpitante anecdote que vous venez de nous conter. Je proclame que vous avez fort galamment gagné votre pari et vous tiens quitte du nom. »
Il offrit sa main que Jacques serra silencieusement. Nerveusement, Micheline avait pris le bras du jeune homme.
« Pas de nom, pas de nom. J'étais folle, »
murmura-t-elle.
« Laissez-moi oublier. Tout, sauf une chose.
Laquelle ?» Elle approcha son visage jusqu'à effleurer celui de Préfaille et chuchota, tandis que les spectateurs s'écartaient discrètement.
Que le meurtrier, que mon sauveur m'aimait. Il m'aime encore, n'est-ce pas, Jacques?
Ainsi s'achève Une nuit sans témoin par Agi Magog.